pas cher dans le marché couvert. Allez, allez,
allez. Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30. La table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Bienvenue les amis, installez-vous, ça y est, la table des bons vivants a sorti le parasol, la pastèque et la mozzarella, des valeurs sûres de l'été. Hein. Nous sommes là tous les samedis de l'été avec des reportages et des dossiers inédits hein, pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons, de la fraîcheur, du croquant et de la variété. Et bien voilà pour nous les trois commandements de la grande salade d'été. On va vous en raconter de belles des salades, sans oublier les vinaigrettes dans un instant. Et puis on va faire aussi le tour de la mozzarella, ça aussi c'est un essentiel de l'été. En attendant, voici mes bons vivants du jour, du transat au hamac, entre de belles lectures d'été, elle se pose une question existentielle. Qu'est-ce qu'on va manger ? Bonjour Charlotte
Landron.
C'est
ça, bonjour Laurent, la question, la seule de l'été.
Nous sommes d'accord. Du barbecue à la plancha, entre de belles siestes d'été, il se pose une question existentielle. Qu'est-ce qu'on va boire ? Bonjour Yves Candebord.
Laurent, c'est pas entre de belles siestes d'été, c'est entre de beaux apéros d'été.
C'est ça, voilà. Exactement, pour garder le rythme.
Et pour garder le rythme. Alors je vais vous dire, qu'est-ce qu'on va boire ? Ah bien, à boire !
Un rosé d'été ?
Un rosé d'été.
Vous n'êtes pas très rosé, disons
non,
la vérité.
Non, je suis rosé, mais je suis pour le rosé, le seul rosé que nous avons en France, où l'appellation est rosé à 100%, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le rosé de Tavel. Et une petite préférence pour celui de Eric Pfefferling.
Et ben voilà, vous voyez, ah oui, c'est un beau dit. Casting, hein, c'est bien fait. Autour de midi, on va sortir les rallonges pour revivre les bons coups de fourchette de nos invités. Anne-Elisabeth Lemoine, José Dayan, Joé Star et Sophie Davant seront de la partie. Ah, du beau monde, hein, on reçoit du beau monde à cette table. Alors avant d'aller sur les marchés, faisons un petit tour, tiens, dans notre mémoire. Posez-vous la question à la maison, en voiture ou en écoutant le podcast. Un plat, une recette, une découverte chez des amis ou au restaurant, quel est votre goût de la semaine, Charlotte?
Le goût de la semaine, pour moi, c'est, je pense un peu à ceux qui restent ou qui passent par Paris quand même cet été et qui veulent se faire une toile et un bon dîner dans la même soirée. Vous allez me dire, c'est classique, mais là, c'est très original. C'est le chef Guillaume Sanchez qui vous invite au Silencio pour des soirées. Donc, ciné, dîner jusqu'au 19 septembre. Ce soir, ça sera Burn After Reading des frères Cohen, parce que c'est un cycle Hollywood. Après, il y aura un cycle noir et blanc, puis sur des biopics. Il y a quatre genres, quatre menus, cocktail, entrée, plat, dessert, puis fête avec DJ après.
Oui. Ça ressemble à Guillaume Sanchez, hein, une cuisine créative, une cuisine d'auteur, comme
exactement,
on dit.
Exactement,
hein.
Qui a été bercé par le 7e art dans son enfance et qui nous en fait profiter
mais
aussi
oui, allons
à table.
Au cinéma, voilà, avec le masque, les gestes barrières, mais c'est vrai que le cinéma en été, ça fait du bien,
ah, oui.
Prenons le temps. Yves Candebord, votre goût de la semaine?
Alors, mon goût de la semaine, moi, il se situe entre mes deux apéros. Voilà, c'est mon 4 heures. Et mon 4 heures l'été, c'est la pastèque.
Ah oui.
Une tranche de pastèque. Voilà, me mettre sur le bord de la terrasse, croquer dedans, et ça va dégoudliner
sur le
corps.
C'est rien, ça hydrate.
C'est fruité, c'est rafraîchissant, et écoutez, sucré. J'adore, je me prends pour un enfant, je m'en mets partout et je suis très heureux.
C'est magnifique la pastèque, il y en a même des sans pépins, vous voyez, si vous voulez, pas de pépins.
Et vous Laurent?
Mon goût de la semaine, eh bien écoutez, c'est un poisson. Je passe pas mal de temps en ce moment entre Paris et le midi pour mes émissions
raison,
de TF1. Et c'est un poisson qu'on va trouver tout l'été, qui est un poisson plus abondant et abordable, c'est le sar. Vous savez, c'est un cousin de la dorade.
De la dorade, oui.
Et j'ai eu la chance de goûter un sar magnifique pêché par Cédric Reggio, qui est pêcheur au Goud, dans le port des Goudes à Marseille. Et vous savez qui m'a cuisiné ce poisson, c'est merci. Alexandre Mazia qui l'a cuisiné, le grand chef marseillais, en version crue avec une sauce vierge maritime. Très simple, hein, une sauce vierge comme celle de Michel Guérard, mais là, c'est de l'huile d'olive avec plein de plantes maritimes à l'Alexandre Mazia. Il y avait de la salicorne, de la soude maritime, de l'astère, donc quelque chose de très iodé et de très herbacé en même temps sur ce poisson. C'était magnifique. Voilà. Ah. Mais le sar se cuisine très bien au barbecue, tout simplement.
Vous ne prenez pas n'importe quel chef, vous, pour vous préparer.
Non, là,
ça,
c'était pour TF1. C'était un plaisir de le recevoir, Alexandre Mazia. Allez, tout au long de l'été, nous continuons à balader, vous le savez, notre micro sur les marchés. Ce samedi, eh ben, on veut connaître vos bonnes adresses, celles qui ont un petit goût de reviens-y, vous savez. Par exemple, tiens, quel est le plat que vous avez envie de retrouver au restaurant en arrivant en vacances?
Des trucs qu'on ne peut pas faire à la maison. Des sardines grillées quand je suis dans le sud de la France. Et voilà.
Alors, je peux vous conseiller l'Aveyron. Quand on va aller là-bas, on mange aligot saucisse. Hein. Ça, c'est traditionnel.
Je dirais, bon, c'est pas vraiment un resto. C'est un glacier, la Cour d'Orgères, à Saint-Pierre-Quiberon. Moi, je prends toujours une glace citron meringuée parce qu'il y a vraiment la petite meringue croquante au-dessus.
Dès que je passe à Lyon, j'aime beaucoup aller à Verona Tutti. C'est un restaurant italien, du coup. Et on y mange un super risotto safrané au girolle.
Alors, en vacances, en Bretagne, à Ploudalmézo. Et on y mange des crêpes. Je suis plutôt fruit de mer, donc ça va être plutôt une crêpe aux fruits de mer.
Eh ben voilà, ils ont de beaux goûts, nos auditeurs. C'est vrai
ils
que
ont
ça,
très bon
c'est
goût.
La Madeleine de Proust de l'été. Hein. Chacun a la sienne. Tiens, la vôtre, Charlotte.
Oula, alors moi, j'ai hâte, très hâte de m'attabler au Libertalia, à la table du Libertalia, bistrot tropical à Patrimonio en Haute-Corse.
Ah,
le
bon,
restaurant,
voilà,
un des restaurants de Pierre-François Maestracci, qui est fils de viticulteur, précurseur de la slow food en Corse. Et alors lui, tout est local, hein, pêche locale, viande fermière. Corse, évidemment. Les légumes, les fruits viennent du potager qui sont à 200 mètres du resto. Il y a aussi maintenant des pizzas faites maison au feu de bois. Que demande le peuple ? Je vais avoir, franchement, l'embarras du choix pour choisir
Elle
mon premier
dure,
plat.
Elle va être dure, la vie en
Elle
vacances. Hein.
Très, très ouais,
mais vous allez revenir ici le samedi aussi, vous nous raconterez.
Oui.
Hein. Yves Cordebord, alors tiens, votre adresse secrète de vacances.
Alors moi, je vais vous surprendre, je vais vous donner une adresse dans le Pas-de-Calais. Voilà, c'est un restaurant qui s'est monté il n'y a pas très longtemps. C'est juste un restaurant d'après-confinement. Ça s'appelle Gogaï. C'est à Wissam et c'est un restaurant d'auteur. C'est un petit restaurant, mais quand je dis petit, c'est surtout pas dans le sens péjoratif par rapport à la taille, où il y a une chaleur humaine, il y a cette chaleur des gens du Nord.
Ah, bah, le Pas-de-Calais, voilà. Qu'il dites-vous.
Voilà. Il y a des gens du Nord. Il fait une cuisine vraiment très marquée, avec des produits locaux et avec une carte de vin aussi très nature. C'est un très bel établissement. Si vous avez la chance de partir en vacances dans le Pas-de-Calais, arrêtez-vous, Gogaï à Wissam. C'est 4 rues du Muret.
Eh ben voilà. Bonnes vacances au Vénard. Restez avec nous, hein. On revient dans un instant avec un fromage à pâte filée, incontournable en été, une belle boule fondante et soyeuse. Vous nous voyez venir, la mozzarella sera là.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
La mozzarella, ce fromage à pâte filée fabriqué exclusivement avec du lait de buffalo, est une fierté de la gastronomie italienne. La mozzarella di bufala, hein, fabriquée de manière artisanale dans le sud de l'Italie, bénéficie même, vous le savez, d'une appellation d'origine contrôlée depuis 1996 même. Alors on va faire le tour de la boule ce matin avec Yves Candebord et Charlotte Langrand, deux amateurs de mozza, n'est-ce pas Charlotte? Tiens,
ah oui.
On vous en apporte un instant.
Oui.
En plus.
Oh, elle est belle, elle a l'air bien crémeuse. Elle est très pratique parce que quand même on la met un petit peu partout, on peut la mettre cuite sur la pizza, évidemment, c'est pour ça qu'on la connaît en général, mais on peut la mettre avec la tomate, sa meilleure alliée de l'été,
grande
et le basilic évidemment, très classiquement. Sinon, effectivement, on peut la déchirer un petit peu, la mettre sur des pâtes.
Oui, c'est bien aussi, mais bien sûr.
On en fait tellement de choses.
D'où elle vient cette belle mozzarella, Yves Candebord?
Ah ben, c'est comme son nom l'indique, comme elle chante quand on en parle, elle vient bien sûr d'Italie, elle est originaire de Campanie dans le sud-ouest de l'Italie, elle est fabriquée exclusivement avec du lait de buffala. Il faut faire très attention parce que malheureusement,
la bufflone, oui.
Voilà, elle est copiée, surcopiée et c'est souvent avec du lait de vache. Donc il faut être très vigilant quand vous l'achetez.
Rien à voir, on l'appelle fiordilaté dans ce cas-là. Il
hein.
Ne faut pas l'appeler mozzarella.
Ça ne s'appelle pas mozzarella, mais malheureusement dans les étals, on en voit mélangé au milieu. Faisons attention. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des fromages italiens que je préfère. Alors, je ne l'aime pas trop personnellement en cuisson. Je préfère qu'elle reste gardée.
Moi, je l'aime
froid.
Cru, moi aussi.
Voilà,
pareil,
moi, je la préfère crue que cuite. Je trouve qu'elle perd un peu son intérêt. Là, on voit qu'elle est vraiment crémeuse, qu'il y a ce côté lacté qui est très, très long en bouche, qui a beaucoup de finesse. Et je l'adore avec de la verveine.
Ah oui,
mozzarella, verveine et courgettes. Je prends des courgettes à l'économe. Je fais des tagliatelles de courgettes à l'économe, très rapidement, donc ça fait des petites tagliatelles, que j'assaisonne simplement de sel et d'un peu d'olive. Je pose dessus une mozzarella, comme ça, très, très coulante. Très coulante. Et là, j'y mets un peu de pignon de pin grillé et ça fait de suite une salade de courgettes très lactée, très agréable.
Alors, si on veut la cuire, dans ce cas-là, on prend de la fiordilatée, celle avec du lait de vache traditionnel. Effectivement, elle sera mieux que la bufala, qui est déjà plus chère que celle au lait de vache, pour la cuire. C'est un fromage très à la mode, hein, Charlotte.
Ah ouais, c'est même le fromage le plus consommé au monde, hein, figurez-vous. Ça en produit quand même 3 millions de tonnes chaque année. Évidemment, pour alimenter ce fameux marché de la pizza. Bon, sauf que la mozza industrielle, hein, c'est pas celle dont on parle aujourd'hui, évidemment. Et puis, il faut savoir quand même qu'elle tient son nom de son procédé de fabrication très spécifique en italien. Le verbe mozzare, je ne sais pas si je prononce
bien,
mais je l'ai fait, désigne le travail à la main de ce lait caillé qu'on étire comme ça en ruban, puis qu'on découpe en boules de
façon
très spécifique.
C'est un fromage à pas de filet, exactement. On fait de grands fils, comme ça, un petit peu comme l'aligot. Alors figurez-vous que l'on fabrique de la mozza au lait de bufflone en France, et pas n'importe où, en plein cœur de Paris, dans le 11e arrondissement. C'est chez Nanina. J'ai eu la chance d'y aller déjà. C'est vrai qu'ils font un boulot formidable. C'est Julien Carotenuto et Franco Picciulo qui font venir leur lait de bufflone, figurez-vous, d'une coopérative en Auvergne, deux fois par semaine, parce qu'on a des bufflones qui broutent en Auvergne. Alors la mozza, on connaît, mais elle a aussi des cousins, hein, comme la burrata, comme la stracciatella. Eh bien, Alice Foss s'est rendue chez Nanina, à Paris, dans le 11e, pour faire la différence entre ces belles spécialités laitières.
Alors, nous, notre produit phare, c'est la mozzarella di bufala. C'est vraiment le produit phare. C'est un produit qui se mange tout seul, du coup, pas en salade. Normalement pas assaisonné, pas d'huile d'olive, pas de sel. Une pincée de poivre à la limite. Et qui se mange avec une tranche de pain en fin de repas. Le plus frais possible, et si possible, sans être passé au frigo. La scamorza, qui est le même procédé, on va filer la pâte exactement pareil, sauf qu'on va cuire la pâte à 45 degrés pendant une heure avant de la cuire. Donc on va avoir un produit qui va être plus ferme et qu'on va pouvoir affiner 4-5 jours. Alors après, fumer, pas fumer, on peut fumer tous les produits sans problème. Caciocavallo, qui est même procédé que la scamorza, mais encore plus cuit. Donc c'est un fromage bien plus affiné, qui va ressembler à un provolone piccante un petit peu. La stracciatella, c'est le cœur de la burrata. Donc c'est un mélange de crème et de stracciatella, ce qu'on appelle stracciatella, c'est les filaments de mozzarella. La burrata, du coup, c'est une mozzarella qu'on farcit avec un intérieur stracciatella, donc un mélange de crème et de filaments de mozzarella. Et c'est pour le coup un produit qui va s'assaisonner un petit peu parce qu'on la passe pas dans la saumure, donc elle va pas être salée naturellement. Donc on va pouvoir ajouter un peu d'huile d'olive, un peu de sel dessus.
Eh ben merci Julien Carotenuto. On se croirait en Italie et on est en plein cœur de Paris avec Alice Foss qui a goûté toutes ces petites merveilles et qui nous en a rapporté. Elles sont avec nous. Tiens, il y a de la mozzarella, il y a de la burrata. Qu'est-ce que vous préférez, tiens, déjà Yves, entre la scamorza aussi, la mozzarella qui est cuite, comme le disait Julien?
Moi, je vais être plus burrata parce que voilà, il y a une texture qui est différente, qui est un peu plus crémeuse, on va dire, que la mozzarella.
Avec la stracciatella à l'intérieur, voilà. Comme il disait.
Ouais, c'est vrai que c'est plus onctueux et ça liant, ça amène un assaisonnement, ça amène pratiquement une sauce sur une tomate.
Et cette odeur de cru comme d'une belle crème crue. Hein.
Ah oui, moi aussi je suis burrata. Hein. Cette espèce d'entre-deux, c'est super. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Mauro Colagrico, il fait une burrata pour changer. Il l'a fait aux agrumes.
Le chef du Mirazur à Menton.
Exactement. C'est un peu un mariage idéal entre la fraîcheur et l'onctuosité. Il y a des kumquats, des citrons verts, du pamplemousse, de l'orange, des graines de coriandre, des épinards, un peu de balsamique blanc et de la fleur de sel. Franchement, ça change de la tomate et c'est une très bonne idée.
C'est vrai que la mozza avec une tomate, une belle huile d'olive, du basilic et du poivre, mais qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça, franchement?
Ah, mais ce que je veux de mieux, moi, j'ai envie de vous le dire. Je vais vous le dire, là. Je vais vous dire le fond de ma pensée parce que ça boue un petit peu. Alors, j'adore ça, mais j'adore ça en Italie. J'ai envie de vous dire qu'en France, on a des fromages frais, soit de vache, de chèvre ou de brebis, exceptionnels et qui valent largement les produits extraordinaires que nos Italiens nous font.
Oh bah dis donc, prends ça les Italiens. Mais elle est vachement bonne la mozza, à part à Paris comme on vient de l'entendre, on n'en fait pas beaucoup en France quand même, donc ça vaut le coup d'en acheter une bonne, je suis d'accord.
Reconnaissons Laurent qu'on est un peu dans le ridicule, que 99% des restaurants ou des bistrots parisiens ou des brasseries parisiennes ont de la mozzarella à leur carte, ça me fait quand même doucement rigoler. Je pense qu'il y a moyen de faire et de soutenir nos producteurs français.
Avec un bon chèvre
avec
frais.
Avec un bon chèvre frais.
Oui. Et c'est un bel accord avec la tomate aussi.
C'est vrai. On le voit.
Mais il y a des chefs qui le font. Hein,
oui, il y en a quelques-uns.
Hein.
Oui, mais on les compte sur le doigt d'une main.
C'est vrai que c'est toujours mieux de toute façon de prendre un bon chèvre frais que plutôt qu'une mozza industrielle.
Mais c'est pas le même goût. Moi, j'aime bien
le
goût lacté, cette odeur de
cru de la mozza. Laurent, on entend parler à tout bout de champ du bon sens paysan, du locavore, du ceci. Mais la mozzarella, qu'est-ce qu'on aime? Et on la met partout.
Oui, on pensait que les vacances l'avaient un petit peu calmé. Il est au taquet sur la mozzarella, faut pas le chauffer. Alors on peut la chauffer la mozzarella, mais on le disait, dans ce cas-là faut prendre une fiore dilatée, hein, pas une au lait de bufflone parce qu'elle sera déjà moins chère. Mais alors moi, pour le coup, si je veux poursuivre votre coup de gueule, moi c'est ceux qui mettent de la mozzarella à cuire, qu'ils achètent en barquette et qu'ils mettent comme de la mozzarella
c'est
de qualité,
c'est
et qu'ils mettent à côté d'une tomate, alors ça m'énerve aussi, je suis d'accord avec vous.
Mais je suis complètement d'accord avec vous, Laurent. Après attention, je n'ai rien contre la mozzarella. Quand je vais en Italie, je trouve ça exceptionnel. Voilà, mais je suis un petit peu français, j'aime mes petits français.
Mozzarella d'Auvergne, retournez-y, regoutez.
Oui. Mais vous savez qu'on a
d'Auvergne.
Un salaire sans Auvergne qui est exceptionnel, vous savez ça. Je lâcherai pas.
Il lâchera pas, c'est Yves Candebord. Ne bougez pas, dossier grande salade d'été dans un instant. Mais avant, on va vous inviter à la table des tyrans, dites donc, c'est pas une blague. Reprenez un petit peu de mozza.
Et c'est pas moi le tyran.
Reprenez un peu de mozza.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Avant de vous raconter de belles salades, on se replonge dans l'histoire de la table. Alors là, avec un grand H, Charlotte et Yves, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le journaliste Christian Roudeau nous a rendu visite il y a quelques mois. Et vous vous souvenez de l'invitation qu'il nous avait lancée quand même?
Ah, la table des tyrans.
La table des tyrans particulière, c'est le nom de son livre. La table des tyrans, Mao, Hitler, Staline. Le contenu de leurs assiettes nous éclaire-t-il sur leur monstruosité? Eh bien, élément de réponse avec Christian Roudeau.
C'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant en me tenant au fait, c'est essayer de les regarder à hauteur de table. Parce que finalement, condamner les dictateurs, dire oh, moralement, ils sont condamnables, alors que ces dictateurs ont encore des nostalgiques, je trouvais que c'était plus pertinent et peut-être plus marquant de les décrire sous ces traits effectivement falstaffiens, presque chaplinesques.
C'est ça, ils sont ridicules bien souvent. Alors il y a deux camps, il y a ceux qui aiment bien manger, il y a ceux qui ne s'intéressent pas à la nourriture. Parmi ceux qui ne s'intéressent pas à la nourriture, on peut dire qu'il y a Mao par exemple. Voilà, c'était oui. pas son truc principal.
Alors
quoi.
Tout est relatif parce qu'il s'intéresse, enfin il garde une loyauté à la cuisine de sa région natale, le Hunan. Il aime bien le porc gras Hunan, il aime très pimenté, hein. Il en a même une lecture très doctrinaire, pour lui un vrai révolutionnaire.
Ah oui, oui. Oui, c'est que si on n'aime pas les plats pimentés qui est la révolution en fait, c'est et ben on est un peu mou quoi, on a un caractère un peu fade.
Exactement, c'est... et même presque dans la façon de parler des maoïstes, on dirait presque déviationniste si on aime trop le sucré ou le mielleux.
Oui, vous avez raison en fait, il aime la nourriture lui pour lui, mais pour les autres il dit que c'est pas important, et il a d'ailleurs poussé son fantasme communiste jusqu'à enlever le moment du repas familial au profit des cantines, parce qu'il trouvait que c'était justement un truc de communion communiste.
Il y a un manger communiste. Hein. Nous sommes ici dans cette émission, la table des bons vivants. Là, on est vraiment plutôt dans la, presque j'oserais dire, la table des morts vivants. Enfin, il y a quelque chose d'assez effrayant. Ce que j'ai voulu mettre aussi en exergue, c'est que bon, c'est pour ces dictateurs, rien n'est trop beau, rien n'est trop bon, même s'ils ne sont pas des fingles, hein, c'est pas des raffinés, mais néanmoins, ils n'ont jamais de problème à se nourrir. En revanche, les décisions qu'ils ont pu prendre au cours de leur sinistre mandat a conduit à la mort par la mort de faim, et parfois de façon volontaire dans le cas de Staline, involontaire dans le cas de Mao, des dizaines de millions de morts.
Et
quand
des
même.
Famines, bien entendu.
Alors, aussi, ouais.
Vous parlez de l'apparat justement et du luxe. Bokassa, vous en parlez dans votre livre, Bokassa qui est venu plusieurs fois en France, qui a été reçu par De Gaulle, et la deuxième fois qu'il vit en France, il visite Versailles, et qu'est-ce qui se passe là?
Eh bien là, il dit qu'il voudrait acheter le mobilier.
Ah ouais.
Donc voilà, tout simplement. Et il faudra lui dire, attention, mais ce n'est pas à vendre.
Ça
ne s'achète pas. Et finalement, il ira, je crois, sur le Faubourg Saint-Antoine, acheter quelque chose d'assez clinquant. Oui. Parce que le contenu de l'assiette n'était pas très important. C'était plutôt ce qui pouvait en mettre plein la vue l'apparat.
Vous consacrez un long chapitre à Hitler, hein, j'en parlais. Alors Hitler, il n'aime rien, ça ne l'intéresse pas. C'est un complètement dingue. Mais ça, on le savait. Mais en plus, il n'y a pas d'horaire fixe pour les déjeuners. Donc, il mange selon son bon vouloir. Donc, tout le monde attend que monsieur veuille bien se mettre à table. Ouais. Il mangeait des bouillies d'avoine tout le temps, quoi, Hitler.
Il y a le végétarisme qui est assez connu. Hein. Ce n'est pas une révélation. Enfin, même si c'est encore très discuté, parce que les végétariens ne le reconnaissent pas forcément comme un homme sandwich, on peut imaginer. On préfère le Mahatma Gandhi. Mais néanmoins, oui, il avait juste la dent très sucrée. Hein. Il aimait beaucoup. Il fait une sorte de boulimie de chocolat, de forêt noire. Mais encore une fois, rien de très raffiné. Et puis surtout, moi, j'ai voulu montrer aussi la commensalité. Rien de très exaltant autour d'une table. C'est pas simplement que pour manger une table, c'est pour discuter, pour échanger. Lui, il s'écoute surtout parler.
Enfin,
il ne boit pas d'alcool, mais il est ivre de ses propres paroles.
Il prenait tout le monde en otage avec des repas qui duraient ad vitam aeternam, et on ne savait pas quand ça allait se terminer. Il ne parlait que de lui et il faisait des diatribes horribles comme on le connaît. Quoi. Donc, c'est ça que vous racontez dans le livre.
Exactement.
On a vraiment l'impression d'être à table avec eux. C'est ça qui est assez... ça fout la chair de poule, hein, votre bouquin, parfois.
Oui, alors j'espère que ça ne vous a pas trop effrayé, Laurent Mariotte. Il y a aussi des... J'ai essayé d'utiliser un petit peu d'humour, encore une fois, pour les montrer sur leur...
Bien sûr.
Voilà, le côté un peu ridicule de ces dictateurs.
Et ils le sont. Eh bien, merci beaucoup, Christian Roudeau. À la table des tyrans, c'est chez Flammarion, c'est passionnant. Mao, Hitler, Bokassa, Staline, Ceausescu, Saddam Hussein. De l'autre côté de la fourchette, c'est Zimonde de notre monde. Merci, Christian Roudeau, d'être
beaucoup.
Passé par
merci.
La table des bons vivants. Tiens, à propos de lecture passionnante et envoûtante, c'est quoi votre livre de l'été, Yves Candebordes? Un polar, un livre de cuisine, un livre sur la mozzarella,
Le fromage de chèvre.
Je vais vous faire plaisir, c'est un livre sur l'Italie.
Ah bah
vous
donc.
Voyez comme quoi,
vous y revenez. Voilà.
Alors ça s'appelle l'écume des pâtes, c'est chez Stock, et c'est Tommaso Milelli. C'est un jeune Italien qui est arrivé en France, qui a appris la cuisine en France, qui a cuisiné en France dans des restaurants de l'Est parisien, et qui à un moment donné s'est retourné et s'est dit « Mais c'est fou, je cuisine en France, je connais la France, mais je ne connais pas mon pays. » Donc il est reparti en Italie, et il a fait le tour de l'Italie, il en a fait un livre, et c'est super intéressant, parce qu'il a cette sensibilité d'un Italien qui ne connaissait pas la cuisine italienne, et donc il a fait découvrir avec un regard assez français, mais très pertinent.
Charlotte Langrand, votre livre de l'été.
Alors, c'est pas du tout Les Tyrans, mais je me dis que comme on a le droit de refaire la fête, il y a un petit livre qui était sorti cet hiver qui s'appelle Cuite de Victoire Loup, qui est quand même peut-être à emporter dans sa valise.
Oh, c'est vrai que c'est bien.
Parce que, voilà,
parce que
c'est
ça
pas,
peut arriver.
C'est pas, voilà, ça peut arriver. C'est pas du tout un hymne à l'excès, c'est à la bonne ivresse, comme ça, et aux recettes du lendemain. Alors, qu'elles soient roboratives, plutôt légères, quel que soit le clan dans lequel vous êtes, il y a beaucoup de super petites recettes faciles à faire pour l'en moins difficile.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, on mélange les plaisirs et les saveurs avec nos grandes salades d'été, charcuterie, poissons, céréales, légumes, fruits. On trouve de tout dans nos salades et je ne parle même pas de l'assaisonnement. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez, aujourd'hui, on vous raconte des salades, hein, des grandes, des petites, des touffues, des croquantes, des complètes. On leur demande une seule chose, nous régaler cet été. Avec Charlotte Langrand et Yves Candebord, on a révisé nos classiques et on a sorti nos plus belles envies, hein, Charlotte. Tiens, si je vous dis comme ça, à brûle pour point, tiens, une belle salade d'été pour un repas complet.
Pour un plat unique, une salade César ?
Ah, c'est bien ça.
Un peu de poulet, de la salade, des petits croutons, une petite sauce.
Ah bah tiens, hein, comptez pas si bien.
Pourquoi
dire.
Pas.
Je vais vous faire un petit quiz dans un instant et on va revenir sur les vrais ingrédients originels de la salade César.
Originels,
ouais. Et ce ne sont pas toujours ceux qu'on croit, ouais. Votre salade de l'été, tiens Yves Candebord.
Alors moi j'adore les salades sur les déjeuners et je fais toujours des salades où je m'amuse déjà à mélanger le cuit et le cru par rapport aux légumes. Je trouve ça c'est génial. Bon, faire des haricots verts, bien sûr il faut les faire cuits parce que cruits n'ont aucun intérêt. Haricots verts cuits avec des radis. Mettre des courgettes, pareil, des courgettes râpées, mais tout simplement des carottes râpées, tout ça mélangé avec une jolie mesclin. Et après, pour franchement, c'est la consistance, parce que c'est vrai que manger des salades, c'est intéressant, mais on peut avoir rapidement derrière faim.
Oui, oui.
Donc, je mets du boulgour.
Ah,
j'amène
voilà.
Toujours une céréale, voilà.
Voilà.
Que je cuis tout simplement à la vapeur, que je vais mélanger, et j'en amène quand même une quantité assez suffisante, parce que je mets quand même un tiers de boulgour par rapport à la quantité de ma salade, et j'assaisonne ça toujours avec un jus de citron. Je reste très citron sur le déjeuner avec un beau trait d'huile d'olive. Et j'ai une salade qui est consistante, qui est assez équilibrée en finalité entre le légume et la légumineuse. C'est intéressant.
Et de saison, bien entendu, parce que là, on est en plein dans la saison des haricots verts et du radis qu'on continue à trouver, bien entendu. Hein. C'était le premier légume primeur qui a débarqué au printemps, mais il est avec nous jusqu'aux premières gelées encore. Alors, c'est l'été, devoir de vacances oblige. Tiens, je vous propose de faire un petit quiz. On va commencer par réviser nos classiques. Je vais vous donner le nom d'une salade et vous allez me donner les ingrédients qui la compose.
Ah bah, Yves,
et là, je parle
gagner,
pourquoi c'est moi.
Je parle de salades pour vous, mes chers auditeurs, des salades que vous pourrez refaire dès ce week-end et pendant toutes les vacances. Alors, si je vous dis salade Waldorf.
Alors, Waldorf, il y a pomme, je veux dire noix et laitue.
Ouais. Ah. Et branche de céleri.
Et de la branche de céleri.
Et puis avec une belle mayonnaise au paprika qui va enrober tout ça. Hein. C'est une salade un peu d'hiver, on va dire, mais qu'on peut encore trouver en cette saison parce qu'on a les premières pommes qui débarquent avec les pommes de boisson.
C'est aussi une salade d'un grand chef. C'est Auguste Escoffier qui avait ramené ça des États-Unis quand il était parti faire une campagne de gastronomie aux États-Unis. De mémoire, c'est à l'hôtel Waldorf d'ailleurs.
Oui, exactement. Voilà, à New York.
D'où le nom.
Et il avait ramené ça en France et c'est devenu un de nos grands classiques.
Il la faisait en hiver avec une chicorée, mais là, en plein été, on fait ça avec une laitue, par exemple, ou une batavia, ou une feuille de chêne. Même, c'est délicieux. Alors, une salade, vraiment, moi, que j'adore mettre au centre de la table en été, et je ne suis pas le seul. Et alors là, attention, si vous nous écoutez dans le midi, je sais que vous allez être sur le coup, parce qu'on ne rigole pas avec celle-ci, c'est la salade niçoise. Les ingrédients de la salade niçoise. Attention à celui qui met de la pomme de terre. Je pense qu'il va sortir du sudocoluche, mais une vitesse alors, sur les réseaux sociaux, ça va pas faillir.
Laurent, c'est compliqué la salade niçoise parce que.
Pas de riz. Pourquoi alors,
un seul ingrédient cuit dans la salade niçoise.
Pour vous,
c'est l'œuf dur.
C'est l'œuf dur. Mais alors, la complication de la salade niçoise, c'est que moi, en tant que cuisinier, j'ai passé mon CAP de cuisine avec. C'était Grégoire Saumier, qui s'appelait le livre de cuisine, et on faisait une salade niçoise avec des haricots verts, avec des pommes de terre,
Oui, ah. C'est ça.
Donc c'est vrai que les Niçois
elle
crient au scandale.
Elle a été galvaudée par les livres de cuisine.
Elle a été galvaudée par les livres de cuisine. Ah, alors... Parce que la salade niçoise, c'est exclusivement, à part les œufs durs, oui. Les œufs durs qui sont cuits, bien sûr, tout le restant,
que du cru.
C'est que du cru. Et ça peut varier aussi énormément selon la saison des légumes.
Alors là, il y a des tomates, il y a du concombre, des fèvettes, quand c'est le début des fèvettes, des petits artichauts, des poivrons verts, des oignons frais, du basilic, de l'ail, les œufs durs, on l'a dit.
Les olives.
Les olives, oui, absolument. Certains... De Nice, bien sûr, les olives de Nice.
Et après...
Filet d'anchois.
Alors là, il y a le point d'interrogation.
Ou du thon.
D'anchois ou du thon.
Ou du thon, voilà, exactement. Ouais, bah, on est dans les clous, là. Hein.
On est dans les clous.
Hein, vous nous écoutez à Nice, on pense à vous si vous mangez une belle salade niçoise et on peut l'exporter un peu partout dans le pays, cette salade niçoise, oui. À condition de respecter justement ces ingrédients.
Je pense que la salade niçoise, c'est un peu comme la garbure béarnaise. Il y a autant de recettes de garbure béarnaise qu'il y a de grand-mère.
Oui, que de cuisinier, comme on dit. Exactement. Voilà. Alors, le taboulé, voilà aussi un beau plat rassembleur, une belle salade d'été. Les ingrédients essentiels, vous diriez quoi pour le taboulé, Charlotte Langrand ?
Moi, je veux plein de persil. Il y en a où il n'y a que du persil,
bien
d'ailleurs.
Sûr. Le Libanais, c'est que du persil.
Il n'y a pas...
Avec des tomates.
Moi, je dirais quand même taboulé, de suite, je pense semoule de blé.
Blé concassé, du boulgour, voilà. Par exemple.
Ouais,
du persil, de la menthe aussi, de la fraîcheur. Et un petit peu d'huile d'olive et du citron, quoi.
Ouais, et pas de légumes.
Non, il y a vraiment que du persil. Ah, hein. La verdure est apportée que par le persil dans le vrai taboulé. Ouais, une belle salade d'herbes. Ouais. Mais vous avez raison, moi je trouve qu'on peut s'amuser à mélanger les herbes. Du cerfeuil, de l'estragon, un petit peu de ciboulette et du persil. Un beau boulgour, on adapte et on s'approprie le taboulé comme
oui,
ça.
Oui, mais moi je crois que c'est ça. C'est la phrase d'Alain Chapelle. Voilà, il n'y a pas de recette précise de cuisine. Voilà, il n'y a que des cuisiniers qui cuisinent avec leur passion et leur amour.
Et si je vous dis, alors salade César, justement, parce qu'on en parlait avec Charlotte. Et alors là, moi, en préparant cette émission, j'ai fait une découverte. Je vous assure que ça fait des années que je parle de la sauce de la César salade et je me rends compte que je n'avais pas la bonne version.
Est-ce qu'il y a des anchois ou pas ? Est-ce qu'il y a des anchois ?
Eh bien, vous diriez quoi ?
Moi, je dirais qu'au Ritz, à l'époque, Monsieur Le Guy, on faisait une sauce à base d'anchois.
Eh bien oui, parce que la César salade, elle est née en 1920 au Nouveau-Mexique par un chef qui a vidé les frigos. Et moi, j'ai toujours entendu dire que ce chef, César Cardini, qui a donné son nom à cette salade, avait des anchois dans le frigo. Eh bien, figurez-vous qu'après enquête, et c'est sa fille qui nous l'a dit, il n'y a pas d'anchois dans la sauce César.
Vous voyez comme quoi, je peux vous dire que j'en ai fait multitude.
C'est fou.
Et qu'on
hein.
a toujours mis de l'anchois dans la salade César.
C'est une sauce très spéciale avec de l'huile d'olive, du poivre, du jus de citron, de la sauce anglaise. Et la César salade, je rappelle les ingrédients basiques, des feuilles de romaine, le cœur de cette belle laitue, des croûtons à l'ail et puis cette sauce particulière, donc avec ces œufs qui ont été cuits simplement une minute, je le redis, du jus de citron, de l'huile d'olive, du poivre et cette fameuse sauce anglaise. Comment vous l'appelez ?
J'ose même pas.
Mais c'est vrai que les sauces ont leur importance dans les salades. Bon, on va vous en parler des sauces. Justement, on revient après la pause avec nos belles salades originales et rassembleuses pour l'été. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Salade partie ce samedi matin sur Europe 1. Bon été, bonnes vacances si vous y êtes et bonne route si vous êtes sur celle des vacances justement. Et puis bonne route tout court si vous revenez du marché, du sport ou d'ailleurs. Et puis bonjour aussi à ceux qui nous écoutent à la maison et en podcast. Alors ce matin, on fait le tour des salades. On vient d'en évoquer quelques-unes, là, des grandes classiques. La César, la niçoise, la Waldorf. Faut qu'on parle des sauces aussi, quand de bord, quand on parle des salades. Alors bien sûr, la première qui vient à l'idée, c'est la vinaigrette.
Oui, c'est la vinaigrette qui est foncièrement assez facile à faire. Il faut compter une grosse cuillère à soupe de moutarde de Dijon, du sel, du poivre. Vous mettez à peu près 15 centilitres de vinaigre. L'idéal, c'est prendre un vinaigre de vin et vous rajoutez entre 35 et 45 centilitres d'une huile. Alors, on aime bien la faire normalement classiquement avec l'huile d'arachide qui est assez neutre. Et voilà, vous faites une bonne émulsion. Alors, pour l'émulsion, moi j'ai la petite astuce qui est tout basique, mais qui marche tout le temps, faites cette vinaigrette dans un bocal en verre. Voilà. Et que vous fermez et vous checkez.
Et oui.
Vous checkez. Et surtout,
on
le secoue. Et l'avantage, c'est que vous l'utilisez. Et quand vous n'avez pas tout utilisé, vous le mettez au réfrigérateur. La conservation, vous pouvez le conserver facilement 10 jours, 15 jours. Et régulièrement, quand vous en avez besoin, vous rajoutez dessus. C'est un moyen de la conserver de toujours avoir une petite vinaigrette en place.
Charlotte Lambron, vous validez ? Vous êtes fan de vinaigrette ? Vous aimez l'acidité un petit peu,
oui,
Charlotte,
oui,
en
j'aime
cuisine,
beaucoup la vinaigrette, mais j'aime bien. Moi, je suis pas aussi douée en cuisine que vous. Hein. Donc, du coup, je fais une petite sauce assez simple au yaourt, ciboulette, citron,
ça
sel,
marche toujours.
Ça marche toujours. Et en plus, on peut aussi l'utiliser pour tremper à l'apéro les légumes crus.
Bien sûr.
Donc, moi, ça me va très bien. C'est
vous qui recueillez les recettes et les confidences des chefs dans le journal du dimanche, chaque dimanche, il y a une sauce qui vous a tapé dans l'œil.
Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, là, récemment, il y a le retour des sauces avec de la groseille à maquereau. Ça avait quand même un petit peu disparu. Et par exemple, chez Sarah Mingui, elle fait un schnitzel, c'est une escalope panée.
C'est où, Sarah Mingui ?
C'est, alors, c'est à Nantes, au Grand Vacarme, dans son resto à elle. Et c'est aussi en resto éphémère cet été à Paris, dans le 10e, à l'hôtel Le Grand Quartier. Donc, un schnitzel, entre autres, avec une sauce groseille à maquereau et des graines de moutarde. C'est un arbuste assez rustique hein, qu'on utilisait. Ça vient de l'anglais pour accompagner, ça accompagnait le maquereau.
Bien sûr.
Et ça revient. Et c'est un peu moins acide que la groseille à grappe. Et franchement, c'est assez sympa.
Je ne savais pas qu'on en faisait des sauces, parce que moi, j'adore la groseille à maquereau.
C'est très bon, c'est très bon. Non, moi non plus. Je découvre, j'apprends.
Et c'est vrai que l'acidité.
Ça a l'air super intéressant.
Tout simplement, là, au barbecue, là, on sort des salades deux secondes, mais au barbecue, un beau filet de maquereau à la plancha, je veux dire, on va sortir des salades d'été deux secondes. À la plancha, un beau filet de maquereau avec de l'huile d'olive et des groseilles à maquereau que vous mettez autour, comme ça, qui vont s'éclater avec la chaleur. C'est un très beau mariage parce que l'acidité va venir titiller le bon gras du maquereau.
Redécouvrir ça, ouais.
Il y a une autre règle qui est importante pour réussir une salade complète aussi, je trouve. Parfois, on s'en détourne. Ce sont les proportions, Yves. Les bonnes proportions pour réussir sa salade entre le cru, le cuit, les céréales, les légumineuses.
Mais c'est les bonnes proportions. C'est en général, en fin de compte, l'équilibre. Voilà, l'équilibre gustatif du plat, de la salade. Alors c'est assez simple, puisqu'on compte à peu près un tiers. Ouais. Alors, c'est très simple. Donc, on prend un tiers de protéines. Alors, ça peut être bien sûr une protéine animale ou végétale avec les légumineuses. Après, on fait un tiers de légumes ou de fruits, ou alors des deux. Moi, j'adore rajouter, faire ce mélange un peu sucré avec le fruit, comme avec la pastèque, avec le melon, avec aussi la groseille maquereau qui peut très bien intervenir dedans, et les autres légumes. Et après, on a un tiers de céréales.
Voilà, donc
je pense que c'est le bon équilibre pour avoir une salade qui est complète.
Ou un féculent, céréales ou féculent,
ou ça peut être aussi un féculent si on prend une pâte, si on prend un riz. Voilà, mais si on veut rester sur quelque chose, je dirais, d'assez équilibré, c'est assez intéressant. Et après, par contre, il ne faut pas se priver d'herbes. Là, il n'y a pas, de proportion.
Il faut y aller.
Il faut y aller avec de la fraîcheur, que ce soit de la coriandre. Mais comme vous disiez tout à l'heure, Laurent, c'est sympa aussi de faire un mélange. De mélanger coriandre, basilic, menthe dans une salade. Ben, ça amène des saveurs, ça amène de l'assaisonnement. Et ce qui est aussi intéressant, ça peut faire baisser le sel justement pour donner quand même de l'âme à la recette.
Mais justement, et les épices aussi, il faut penser aux épices parce que moi, par exemple, Chloé Charles, la chef, vient de sauver mon été. Elle vient de faire un super partenariat avec la marque d'épices Nomi, je ne sais pas si vous la connaissez, très bien sourcée. Et elle a notamment un mélange pour salade avec sumac, épines vinettes, hibiscus, poivre, thym et rose.
Ah, c'est
ça,
joli.
C'est des choses quand même qu'on ne trouve pas très facilement. C'est déjà fait, c'est pour vous, c'est
et
à livrer chez vous.
Ça
chez Nomi, N-O-M-I-E, les épices Nomi. Et vous pouvez vous les achetez sur leur site internet.
Eh bien, parfait. Chers auditeurs, vous aussi, vous avez des envies de salade. Eh bien, on en écoute une au 39-21.
Salut les bons vivants, c'est Enzo de Valence. Les salades sont souvent végétales et j'aimerais changer des éternelles salades de riz ou de pâtes. Est-ce que vous auriez des idées de salade avec de la viande? Voilà, merci beaucoup.
Ah, c'est vrai, voilà, une belle charcuterie, une belle viande, de belles saucisses. Moi, j'aime bien faire une salade avec les restes de poulet, par exemple. Tout ce qui reste encore attaché à la carcasse, par exemple.
Reste de viande de bœuf, reste de roast beef. Un roast beef taillé très finement, mélangé avec une salade comme une scarole ou une laitue. Moi, ce que j'aime aussi rajouter dessus, des graines de grenade. Des graines de grenade posées dessus.
Ça croque.
Croque. Et après, faire une sauce vinaigrette. Alors, moi, j'ai une sauce vinaigrette que j'adore avec la viande. C'est à base de moutarde Savora.
Mais c'est vrai, avec toutes ces saveurs. Il y a 12 saveurs, je crois.
Voilà, qui est inimitable. Après, on prend les proportions identiques à une vinaigrette classique. On remplace simplement la moutarde de Dijon par la moutarde Savora. Et ça amène une âme supplémentaire. Et donc, la salade, la viande de bœuf, les graines de grenade qui vont amener le fruité et le croquant, et la vinaigrette Savora, Ça fait une
salade ça marche bien.
Qui tient la route.
Et moi, le poulet dont je vous parlais, je le fais revenir, hein, le reste de poulet du dimanche, je le fais revenir avec de l'ail, de l'oignon rouge, par exemple, dans un petit peu d'huile d'olive ou même d'huile d'arachide. Et je mets des noix de cajou, du gingembre que je râpe, et je mets tout ça au milieu d'une belle laitue. On peut faire ça également avec des gésiers, hein, de canard ou de volaille. C'est très très bon aussi, une belle salade de gésier.
Et vous avez raison de parler aussi de râper, parce que n'oubliez pas, ayez toujours à proximité un agrume, que ce soit un pamplemousse, une orange, un citron vert ou jaune. Juste avant de servir votre salade, vous râpez simplement, voilà, les zestes, vous déposez des zestes, de suite ça amène cet équilibre entre l'acidité et l'amertume et ça amène de la fraîcheur.
Eh bien, vous les retrouverez, ces belles salades, sur notre site europe1.fr. Bonne salade d'été si vous êtes en train d'en faire une. On revient dans un instant avec les meilleurs moments de la table des bons vivants cette année. A tout de suite et bon été, bonnes vacances. Si vous êtes des fidèles de l'émission, hein, vous le savez, chaque samedi, un peu avant midi, nous recevons des invités pour découvrir leur coup de fourchette, leur recette préférée. Et c'est vrai qu'un bon moment à table, c'est l'occasion de les découvrir différemment, ces invités. Et vous avez remarqué, hein, les goûts de l'enfance ne sont jamais loin. Hein. Un petit goût de l'enfance, tiens, pour se mettre en bouche, Yves Condebordes.
Ah, moi, c'est une entrée que papa me faisait régulièrement. C'était tout simplement une salade de riz assez vinaigrée. Alors, en plus, il a vinaigré au vinaigre blanc. C'était assez étonnant. Et c'est un goût qui me reste. Et c'est un goût, quand je continue à aller voir papa à Pau, qu'il me l'a refait. J'ai vraiment l'impression de me retrouver en enfance.
Ouais. Ça, c'est beau.
On a du mal à les retrouver. En général, ils sont attachés à cette période-là. Ils ne reviennent jamais. Moi, j'avais les pommes de terre au four, tout simplement, de ma grand-mère, avec un petit peu d'herbe dessus. Bah, je n'ai jamais réussi à les refaire.
Ouais, c'est vrai que nos invités aussi ont de beaux souvenirs d'enfance, mais pas que. Hein. Alors, chanteur, comédien, réalisateur, écrivain, journaliste, chef cuisinier, la liste de nos invités est longue. Ce samedi, on va retrouver une amoureuse de la pasta. C'est une fidèle de l'émission. D'ailleurs, on l'embrasse, c'est la réalisatrice José Dayan, qui ne plaisante pas avec les pâtes à l'évongolais. Joe Star, le jaguar pour les intimes, a un très bon coup de fourchette. Il est intarissable sur le rhum aussi. Sophie Davant va déclarer sa flamme au magret croustillant. Mais avant, on retrouve Anne-Elisabeth Lemoine. Elle a un truc pour bien s'organiser en cuisine. Et je suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre vous.
Moi, j'ai tendance à rire trop fort, à faire « ah 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 ». Je ne sais pas, ça vient de la famille nombreuse dans laquelle j'ai été élevée, où on a tous été habitués à s'exprimer de façon pas trop désordonnée. C'est-à-dire que mon père essayait d'organiser des débats, il n'y arrivait jamais, il était toujours débordé. Mais pour exister au sein d'une grosse fratrie, bah, oui, vous avez intérêt à attirer l'attention, quoi, à être drôle, à être spirituel, à être à la hauteur des grands frères et des grandes sœurs. Donc oui, ça stimule.
Et vous avez choisi aussi d'aller dans une pension, en fait, à un moment, hein, qui est une pension qui était assez stricte, avec les dortoirs, la cantine et le vrai internat, comme on dit. Hein.
Ben, l'internat, la Légion d'honneur, oui, oui. Et oui, c'était un choix et je dois dire que je ne le regrette absolument pas.
Et la cantine, elle était comment ?
Ben, la cantine, elle était affreuse. Mais surtout, on était surtout au lycée. La salle à manger, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est dans une immense salle avec des tables en marbre qui datent de l'époque de Napoléon, avec des bancs qui courent sur toute la longueur de la table. Donc, on est 10 par banc. Donc, il faut ensemble se lever et tirer le banc d'un seul même geste. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, il y avait l'ordre juste avant de déjeuner, tirez vos bancs. Et donc, il fallait tirer nos bancs en chœur, à l'unisson, toutes ensemble, etc. Et ça, c'était le signal de vous pouvez manger.
Anne-Elisabeth Lemoine, tiens, quel est votre goût de la semaine, alors ?
Ce que j'ai mangé cette semaine ?
Ouais, le goût qui a marqué votre semaine.
Ah, des aubergines farcies.
C'est plus trop la saison, mais c'est bien. Farci à quoi ?
C'est le petit traiteur italien de mon marché qui fait ça.
Ah voilà, c'est ça.
Oui.
C'est pas vous.
Ah, c'est le goût de la semaine que j'ai moi-même.
Non, ça peut être ça. Ça peut être acheté chez un traiteur, bien entendu. On est là pour soutenir nos amis traiteurs, vous pensez
moi,
bien.
Moi, j'ai des menus fixes. Tous les soirs, c'est pareil. Parce que comme je suis obligée de planifier ma vie,
ben oui,
comme une dingue, je fais les courses en ayant les mêmes menus en tête. C'est affreux. Hein. Et donc, le lundi, j'ai une soupe au potiron. Le mardi,
allez-y. Si, ça j'aime bien. Le semainier, racontez-nous votre semainier alors.
Le lundi, c'est soupe au potiron. Le mardi, c'est soupe au poireau du marché. Hein. Ouais. Attention. Ça va, c'est la saison, ça.
Oui,
j'ai eu chaud aux fesses. Hein. Le mercredi, tout le monde mange des crêpes complètes.
Mais c'est très bien, c'est très équilibré.
Le jeudi, c'est selon, mais il y a souvent des tortellini de mon traiteur italien du marché pour mon fils. Enfin, bon. Non, mais du saumon pour l'aîné, ça, c'est toute l'année la saison ou pas ?
Mais oui, ça va. Le saumon, il faut bien le choisir. Hein.
Ouais,
le saumon bien
dire,
élevé.
Ouais, ouais.
Ah oui, oui, non.
Bien élevé. Celui de Cherbourg est très bien.
Je sens bien que je suis under control, là.
Alors, vous recevez régulièrement des chefs, Anne-Elisabeth Lemoine. En voici un qui n'est pas encore venu chez vous. C'est Yves Condebordes qui est à vos côtés, l'inventeur de la bistronomie.
Vous n'êtes jamais venu chez nous ?
Je ne sais pas.
Mais ça va.
Je suis sûre qu'on vous a invité ces derniers temps.
Mais il est très pris. Alors, il est éloigné de ses fourneaux en ce moment.
Donc, vous avez dit non. Yves.
Vous en profitez pour réfléchir au métier de cuisinier en ce moment, Yves. Hein. C'est ça qu'il faut nous raconter, c'est qu'on continue à gamberger quand on est un chef habité comme vous.
Et oui, le confinement comporte voilà, ce moment où on se replie un peu sur soi-même. Mais moi, je trouve que c'est surtout un risque de tout faire maison, de tout faire soi-même. Alors, quand c'est un particulier qui le fait, c'est très bien. Mais nous, les chefs cuisiniers, je pense que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes.
Oui, alors vous inquiétez un peu de tous ces chefs qui s'éparpillent et qui veulent tout faire.
Ah, être pâtissier,
boulanger.
C'est ça, quand vous rentrez dans un restaurant maintenant, souvent vous trouvez bien sûr l'éternel maintenant pain maison, mais vous arrivez maintenant à trouver aussi les aubergines qui ont été ramassées derrière la cuisine dans le petit jardin, voir le beurre qui a été fait par le chef. Mais est-ce que c'est le rôle premier du cuisinier? Le cuisinier, c'est quelqu'un qui doit transformer un produit qui a été fait par des artisans. Alors, est-ce que c'est justement pas ce rôle-là qu'il faut qu'on prenne à bras le corps, représenter nos artisans?
Oui, et puis le chef, il est là aussi pour valoriser le travail des artisans. On ne peut pas être bon sur tout non plus, à moins d'avoir une brigade incroyable avec un vrai boulanger, un vrai pâtissier. Mais c'est ça que vous dites, c'est que le chef, il est là pour valoriser l'artisanat aussi, en fait, qui est autour de lui.
Et oui, parce que les chefs cuisiniers, aujourd'hui, voilà, on le voit bien, on est surmédiatisé, on est très reconnu maintenant dans la vie sociale française. Mais moi, je pense que le rôle premier, voilà, par rapport à notre métier, parce qu'on est une chaîne alimentaire, on n'est pas tout seul. On est le fleuron qui va briller. C'est mettre en valeur tous ces artisans de France qui nous font des produits d'exception.
Alors le boulanger, le maraîcher, l'éleveur, le charcutier, le vigneron, le poissonnier, le fromager, ça en fait du monde. Hein.
Oui, ça en fait du monde. Et ça en fait du monde qui nous accompagne, qui crée la gastronomie française, qui crée cette histoire qui est assez exceptionnelle. Et aujourd'hui, nos restaurants sont fermés. Et je pense, c'est un petit cri que je vais pousser à dire à tous mes collègues, c'est le moment voilà, d'aller rencontrer autour de chez nous, peut-être le maraîcher qu'on ne connaît pas, aller le voir, aller lui parler, le regarder dans les yeux, rencontrer l'homme, le vigneron, l'éleveur. Voilà, c'est ça qui est très
Faites
important.
Faites votre casting.
Alors, un casting. Je vais rendre hommage avec les gens que j'adore travailler ou que j'ai eu la chance de rencontrer sur la France entière. Je vais commencer par un boulanger, Alex Croquet.
Ah, dans le Nord.
À Wattignies.
Il est formidable.
C'est un magicien du pain.
Absolument.
Un magicien de l'eau.
Ah.
Je vais vous faire une dame, Fanny Ferrand. Les petits béarnais à Castétis, dans le Béarn, des fromages de vaches normandes d'exception, des yaourts fabuleux. Une poissonnerie, pour moi, la plus belle poissonnerie de France. Elle se trouve à Béziers. C'est la poissonnerie Barba. Et pour finir, un petit boucher. Alors, la boucherie des Montagnons qui se trouve à Mérindol dans le Vaucluse. Là, c'est les artisans qui aiment leur métier, qui vous le transmettent. Et nous, les cuisiniers, on a besoin de gens comme ça pour faire notre cuisine.
Amis cuisiniers, suivez le conseil d'Yves Condebord, d'aller faire un joli casting
pour
autour de chez vous.
Pour faire ses courses en une matinée, c'est pas pratique. Hein.
Mais c'était pour en donner sur toute la France.
Voilà,
vous êtes sélectif dans la façon de faire vos courses sur l'origine des produits quand vous faites le marché?
Oui, je fais attention et j'ai des petites habitudes, quitte à parfois mettre un peu plus le prix et donc ne pas manger trop de viande
quoi.
La semaine.
Mais c'est le slogan des bons vivants, c'est
manger moins, mais manger mieux.
Exactement.
Voilà. Et ben on est là pour ça et on va continuer avec un joli mijoté pour vous, chers auditeurs. À tout de suite.
Et on joue toujours l'accord aussi local en fonction de la provenance du saucisson.
Ferme les yeux, c'était de la poésie.
Mais c'est délicieux.
Il y a un petit goût de date, je trouve.
Exactement.
Hein,
il fait un peu confi.
Europe 1, 11h, 12h30. J'ai une passion pour les frites.
Ah, bah bienvenue
J'adore
au club.
J'adore les frites. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Merci d'être là, amis bons vivants. Nous sommes ensemble depuis 11h. Nos reportages et nos dossiers pour cuisiner l'été étaient de la partie. Et puis, soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec les meilleurs morceaux, si je puis dire, de nos invités. Il y en a eu de nombreux. Vous m'avez donné faim avec votre salade de riz vinaigrée de votre papa, Yves Condebord.
J'y vais le voir demain. Je suis sûr qu'elle sera prête quand je vais arriver.
Eh bien, vous l'embrassez. Dans un instant, Joe Star nous emmène sur les routes du Rhum. L'acteur-rappeur est un amateur éclairé, vous entendrez. Sophie Davant va nous faire voyager dans sa région de cœur et de cuisine, c'est le Sud-Ouest. Mais d'abord, on a rendez-vous avec une recette de saison. Ça ne vous a pas échappé, hein, c'est la saison des moules, des coques et des palourdes sur les étals et sur les plages, Charlotte Langrand. Je sais que vous aimez aller les cueillir, comme on dit.
Bien sûr. Non, je les mange, mais je ne veux pas tellement les cueillir, je
c'est
vous l'avoue.
Même pas des petites coques comme ça, de temps en temps, quand il y a un petit spot?
Ah si, évidemment, s'il y a un petit spot, on ne peut pas s'en empêcher.
Mais c'est la palourde, les deux petits trous dans le sable, un coup
le couteau.
Voilà, quand ça sort.
Et vous avez raison, c'est la palourde, hein, le coquillage officiel pour les pastas à l'évangolé. Alors à table, tiens, avec Arnaud Ducré, et à l'occasion de sa venue, la réalisatrice José Dayan nous avait glissé sa recette avec un tour de main pour finir la cuisson des pâtes à l'évangolé comme un Italien. Allez, andiamo. Dans l'embarras du choix d'Éric Lavaine, vous jouiez le rôle d'un chef cuisinier. Vous avez appris à cuisiner pour l'occasion, ça veut dire ?
J'ai surtout appris pour Tendre et saignant de Christopher Thompson qui arrive, là où je suis allé voir Hugo Desnoyers, parce que c'est inspiré aussi de la vie d'Hugo Desnoyers. J'y suis allé pour apprendre à déchiqueter, à vendre, voilà, pour avoir un peu l'ambiance que Hugo, le geste et l'ambiance que Hugo a dans sa boucherie incroyable, qui fait aussi table d'hôte, voilà, où tu vas.
Oui, on peut manger une belle grillade. Ouais. Alors c'est l'heure du plat du jour, tiens, ce midi sur Europe 1, un plat que vous pourrez refaire ce week-end, chers auditeurs. Est-ce qu'il y a un plat qui vous a marqué cet été, par exemple, Arnaud Ducré ?
Pâte aux palourdes avec José Dayan.
Ah, José Dayan, grande réalisatrice, absolument.
Avec qui j'ai travaillé chez Marius et Jeannette. Et c'était drôle parce que José arrive aussi avec sa boîte de cigares et tout, voilà, avec une énergie folle. Je ne la connaissais pas, moi. Enfin, je connaissais José Dayan, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et donc là, elle me dit qu'est-ce que vous voulez manger ? Je dis bah, moi, je vais manger ça, les pâtes aux palourdes et tout. Et moi aussi, alors, le serveur arrive et là, lui dit bon, alors attendez, je vous explique. Hein, vous. C'est moi qui vais expliquer au cuisinier comment il faut faire parce que moi, ma grand-mère était napolitaine. Donc je vous dis voilà, ça va se passer comme ça. Quoi. Donc elle a dit au chef comment faire les pâtes et elles étaient très, très bonnes.
Alors figurez-vous que José Dayan est une fidèle auditrice de notre émission et elle aime cuisiner. Elle est avec nous au téléphone pour nous donner la recette de ces fameuses pâtes aux palourdes. Bonjour José Dayan.
Bonjour, merci de m'inviter.
C'est un plaisir.
Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous avez dit, c'est que je suis une fidèle auditrice. Il y a quelque chose de faux, c'est que je ne fais pas la cuisine. Voilà, ça c'est très clair.
Bah, les pâtes aux palourdes, vous avez l'air de maîtriser en tout cas.
Oui, mais parce que ce sont les plus simples à faire, voilà.
C'est le plus simple que dur à faire. Hein.
Oui, on vous écoute.
Je salue Arnaud Ducré, je suis très heureuse de travailler avec vous.
Moi aussi.
Et voilà, c'était un moment très sympathique. Oui. Alors les pâtes aux palourdes, c'est vous faites bouillir de l'eau, évidemment, qu'il faut saler l'eau des pâtes, parce que les pâtes, ça ne sale pas après, mais avant.
Voilà, c'est ça, je me souviens.
Voilà, ça c'est essentiel. Il faut qu'elles soient al dente. Alors ça,
c'est la base.
Vous les goûtez, hein, et puis voilà, et puis il ne faut pas que ça dure une demi-minute de plus,
une nano-minute
de plus, voilà. Et puis vous mettez dans une poêle de l'huile, de l'ail, un petit peu de piment,
oui.
Et vos palourdes que vous allez jeter dans cette poêle, qui vont donc s'ouvrir naturellement. Il va y avoir un peu l'eau des palourdes qui vont sortir. Vous arrosez avec un verre de vin blanc. Vous rajoutez un peu de persil, si vous voulez. Moi, je déteste le persil, mais bon.
Oui, il y a des bains, vous avez raison.
Et puis voilà, et c'est très bon. Très léger, c'est estival.
Eh bien, José, je peux vous dire que c'est la recette authentique que vous venez de nous donner, des fameuses linguine aux spaghettis à l'évangolé, qui est une vraie recette italienne. Et vous qui avez des origines, comme vous le dites, napolitaines, là, vous êtes dans les règles.
Alors, quand même, Arnaud aussi a un peu fourché. Ma grand-mère n'était pas sicilienne. Ma grand-mère était napolitaine.
Oui, j'ai dit napolitaine. J'ai dit napolitaine, José.
C'est Naples, hein, voilà.
Ouais. Pas de blague, hein. Et voilà, j'ai perdu un rôle à cause de vos conneries, Laurent.
Mais je suis très heureuse, grâce à votre émission, Laurent, d'avoir l'occasion de parler à nouveau avec Arnaud.
Voilà. Ouais, moi aussi,
merci de m'avoir invité.
Et je vous lance l'invitation pour venir nous voir en studio et partager une bonne table. Vous avez votre ronde serviette à cette table, José Dayan. Vous venez quand vous voulez.
Je viendrai.
Et on va prendre date. On vous embrasse et bonne cuisine. Elle maîtrise bien pour quelqu'un qui ne cuisine jamais, quand même.
José, ça déconne par là. Elle m'a dit, alors je tiens à dire.
Oui. Quelques bonnes adresses en France pour déguster des linguinés ou des spaghettis à l'évangolé. Charlotte ?
Allez, la semaine prochaine, mercredi et jeudi prochain, goûtez celle de Georgiana View, qui va nous faire spécialement les siennes dans le restaurant pop-up de la Criée à Marseille.
Ah, c'est bon, on prend ça, Yves Candebord.
Et à Blainville-sur-Mer, dans le Cotentin, un lieu paradisiaque sur la plage, sur la cale, ça s'appelle le restaurant de la cale. C'est pareil, c'est très simple, mais c'est tellement bon.
Eh bien, moi, les palourdes à l'évangolé, vous pouvez les déguster chez les Vitelloni à Paris, rue du Pitouard, près de la place de la République.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Culture dans ton canapé, culture tout autour du pays, culture babin babé, culture tu cours pas tu péris. Culture dans ton canapé, culture tout autour du pays, culture babin babé, culture tu cours pas tu péris.
La culture dans le canapé, c'est Joey Star qu'on entend dans la radio sur Europe 1.
C'est Joey Star, ouais. C'est une compilation qui vient de l'homme de l'ombre. Alors retenez bien ce que je dis. L'homme de l'ombre, on peut la trouver sur toutes les plateformes. Il y a un morceau avec Cool Chain et Fianso. Il y a Zoxy Sniper, entre autres, Bustaflex. Et là, c'est un morceau qui est extrait de cette compile, donc œuvre d'art de l'homme de l'ombre, qui s'appelle Culture avec Touko. Voilà, mon acolyte de Caribbean Dandy.
Eh bien, avec plaisir, on mettra les références sur europe1.fr pour que vous retrouviez cette compile. Autre référence, c'est Copains comme cochons, ça leur va bien. Joe Star, Eric Hospital, le charcutier du Pays Basque. Un beau livre de recettes, 75 recettes du cochon de la tête à la queue, avec une belle préface de Frédéric Becbédé chez Tana Édition. Il y a plein de recettes faciles à refaire à l'intérieur avec des morceaux comme l'araignée de cochon, par exemple, qui est un morceau qui est délicieux en grillade, Eric Hospital.
Ça, c'est sublime. Ça fait penser à du blanc de volaille. C'est surprenant, de le cochon. C'est la seule partie qui, en fait, est vraiment surprenante.
Avec les mêmes fibres, effectivement.
Mais moins sec.
Mais moins sec.
Et oui. Moins sec, ouais, complètement.
Joe Star, vous êtes un vrai connaisseur de l'alcool de canne à sucre, je veux dire le rhum, à tel point que vous avez animé une émission dédiée au rhum, hein, ça s'appelait La Route de la Soif.
Tout à fait.
Vous avez parcouru les Antilles et les Caraïbes pour connaître les secrets de fabrication du rhum. Vous êtes un malin, en fait, c'était pour refaire votre cave?
Au départ, on était parti boire un coup, en fait. Je faisais une soirée chez moi et le pote d'un pote qui produisait des émissions pour Vice me dit... Tu tiens quand même, enfin t'es là, tu reçois, tu machins, nanana, et ça t'intéresserait d'eux. Et deux semaines après, on commençait à gratter le truc, enfin voilà. Et on est parti un mois et demi après, et on a commencé par les Antilles françaises, on est allé jusqu'à dans l'océan Indien, à La Réunion. Et en fait, on s'est rendu compte sur place qu'on pouvait pas, quand on parle de rhum, on peut pas y aller juste pour boire un coup, quoi. C'est-à-dire que le rhum a un tel aura, et puis l'histoire du rhum, c'est un peu une histoire du pan du monde, un peu. Ça rejoint la colonisation, l'esclavage,
exactement,
et ainsi de suite.
Exactement, c'est un retour aux sources aussi sur votre identité créole, pour vous.
Tout à fait. Et donc, du coup, on est arrivé là-bas, on a commencé par boire un coup, et on a réfléchi, on s'est dit, en fait, il y a un truc qui est nettement plus intéressant, c'est que le produit, c'est la Libye qui fait la raison, c'est les gens qui sont intéressants. Et donc, on est allé voir des gens qui bossaient ça de manière agricole. Bam. Et moi je joue le Candide. Alors pour la petite histoire, tout le monde me prenait pour une sommité, mais en fait j'étais juste un mec à soif, quoi. Ouais, voilà.
Oui, mais un dégustateur éclairé quand même.
Oui, hein. Oui, quand même, oui, je savais où j'allais.
Très voilà. Très belle série qu'on peut voir
sur Canal Plus en replay.
Voilà, moi je les ai faites avant de vous recevoir là, effectivement. Il y a notamment une
séquence. Je joue bien le Candide alors ?
Ouais, vous jouez très bien le Candide. On vous retrouve habillé dans une piscine avec quelqu'un qui fait du rhum à un moment. Enfin, il y a des séquences hallucinantes. On vous voit la tête dans le fût aussi. Au-dessus du fût.
Suivant la taille, on dit la foudre ou le fût.
C'est ça, exactement.
Voilà. Et donc j'ai goûté à la foudre, ouais.
Petite dégustation, tiens, avec vous, Olivier Pouls, parce que vous avez fait une petite cave à rhum pour la venue de Joe Star. On va voir s'il connaît tous ces rhums, s'il y en a qui l'aiment plutôt que d'autres, et vous allez nous expliquer justement comment c'est distillé. Un mot déjà sur l'origine du rhum.
Sur l'origine du rhum, le rhum, c'est lié évidemment à l'histoire de la canne à sucre. La canne à sucre qui n'est pas originaire des Antilles ou des Caraïbes, mais qui est originaire d'Asie, qui est arrivée avec les voyages. Et notamment avec Christophe Colomb dans cette région. Première trace de distillation du rhum, c'est à la Barbade, et ça remonte à 1688, et puis évidemment après il se développe.
Bon, ça c'est ce qu'on dit. Hein.
C'est visiblement la
moi je pense que ça vient des Antilles françaises.
Hein. Ah, il y a des bars.
Si, vous en parlez dans la série.
Ça n'engage que moi.
Hein. Je pense qu'il faut aller vérifier sur place, il faut aller creuser.
Il faut y retourner.
Allez-y les gars, moi je vous le dis.
Mais bien sûr, il faut y aller. Alors, le rhum, c'est un des emblèmes de nos Antilles, bien sûr. Il y a deux grands types de rhum, ce qu'on appelle le rhum agricole, donc c'est la distillation du jus de canne à sucre.
Tout
ce sont des rhums qui sont plus qualitatifs. Et puis les rhums plus industriels où on distille là, ce qu'on appelle la mélasse, qui sont les résidus de ce qui reste après que le sucre a été raffiné.
Alors, petite dégustation, qu'est-ce qu'on a devant nous sur cette table des bons vivants?
On a plusieurs choses là. Le rhum le plus blanc, et c'est une particularité de Joe Star, je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça, c'est un rhum qui est originaire de ce qu'on appelle la canne noire. Et la canne noire, il y en a pratiquement plus.
À boire avec plaisir et avec modération, bien entendu, hein, je le dis.
C'est une canne qui a des rendements extrêmement faibles, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas souvent utilisée. Donc c'est le rhum Bologne. C'est un rhum agricole, en série limitée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça vient de Guadeloupe.
Ouais, Bologne, je connais. Enfin, c'est une maison très sérieuse.
Ouais. Ça a un côté très agrume, d'ailleurs, dans ces
arômes. Très agrume. On est léger pour du blanc. On est, voilà,
c'est très fin.
Je m'attendais avec le nom, je m'attendais à quelque chose de, ouais. Mais c'est très délicat, ouais. C'est fruité, délicat, c'est bien.
J'en ai un autre, alors, qui sont des rhums là qui commencent à être élevés, parce qu'une fois que le rhum blanc, c'est du rhum qui est mis en bouteille très rapidement après distillation. Quand vous avez des rhums qui sont plus foncés, c'est qu'ils ont été élevés, et souvent dans des fûts de chêne d'ailleurs.
Là, on est sur un assemblage.
Là, on a effectivement une partie du rhum qui a été élevé en fût. Alors, ça donne des caractères qui sont un petit peu différents. Là, on évolue un peu plus dans la vanille, les épices, etc. Vous êtes plutôt client de ça ?
Ouais, on est plus sur un truc pour faire des cocktails, on va dire.
Vous le buvez pur ou vous le buvez plutôt cocktail?
Je bois le rhum plutôt pur. Le rhum vieux, je le bois pur. Ouais.
Je vois pas trop avec le petit cocktail, avec le petit parapluie, l'ombrelle sur le côté.
Non, ou alors je suis en train de tortiller du cul, faire des dandies sur au bord du zinc, voilà, mais ça, ce qui m'arrive. Hein. Mais sinon, non, je le bois ambiant et pur, ouais.
Mais alors pas de rhum arrangé, par exemple, vous n'aimez pas ça?
Si, pour rigoler avec les copains et les copines.
Partir avec notre invité Sophie Davant, Yves Candéborde toujours présent autour de la table, Olivier Pouls également. Et Sophie est venue nous voir avec S, le magazine. Et en préparant l'émission, j'ai remarqué votre aversion pour tout ce qui est mou dans l'assiette.
C'est vrai.
C'est vrai, vous n'avez pas les quenelles.
D'abord, j'aime bien les mélanges de mou et de croquant, de sucré et de salé. J'aime bien une cuisine qui... amusante, quoi, un peu rigolote. Mais alors, bon, ce qui est mou, je ne suis pas très souple. Alors, je suis pas très souple, je suis désolée, pourtant, il y en a d'excellentes. Hein. Mais je n'ai pas vraiment d'appétence pour ça, tout ce qui est yaourt, purée, compote. Alors là, ne me servez pas de compote, pitié. Les quenelles. Ah,
mais
non,
moi, je comprends complètement ça. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une tendance voilà, ouais, à tout ce qui est mou. Alors, nous, on rigole quand on dit ça. C'est la nourriture pour bébé avec une paille. Mais c'est vrai que la mâche, mais sans qu'elle soit excessive, vous parlez des quenelles, mais si la quenelle est gratinée, si elle est croustillante sur le dessus et moelleuse derrière, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vraiment les ingrédients où tout est mou. Et quelque part, moi ça m'endort, ça m'assouplit.
Le problème, c'est que si on continue à manger que mou, dans 15 générations, on n'a plus de dents.
Bien sûr, mais vraiment, et là, dans une génération burger, où c'est la culture du mou aussi. Alors, vous allez souvent en Normandie, Sophie Davant, pour faire une pause. Vous profitez des plaisirs de la Normandie, entre les volailles, les fruits de mer, les poissons. J'imagine que vous faites un joli marché.
Ah oui, là j'en profite. En plus, je prends le temps de le faire, ce que je ne fais pas forcément en semaine. Et je prends le temps de cuisiner.
Et c'est quoi le menu du week-end de Sophie d'avant quand elle est en Normandie par exemple?
Alors c'est beaucoup de poissons que j'aime manger en carpaccio, par exemple le carpaccio de saumon, de bar, de Saint-Jacques. Je n'aime pas les Saint-Jacques cuites par exemple, moi je les préfère crus en carpaccio. Donc là je me régale dans les assaisonnements, du poisson en courbouillon, donc la recette de ma grand-mère, mais aussi des volailles. J'ai la chance d'avoir une très belle cuisinière qu'on trouve beaucoup en Angleterre, une aga, vous savez.
Ah oui, voilà, c'est magnifique.
Avec,
ils sont sublimes.
Avec plein de fours différents à différentes températures, donc je m'éclate pour faire la cuisine.
Et vous aimiez aussi beaucoup le magret de canard, m'a-t-on dit à une époque, c'est toujours le cas?
Ça, c'est mon péché mignon, c'est toujours le cas. J'ai été quand même élevée à la graisse d'oie et de canard, voilà, puis, donc je...
Puis le magret de canard, ça, on n'en mange pas tellement sur Paris. Mais c'est vrai que c'est un produit d'exception.
C'est délicieux. Délicieux.
Ça comporte tout. Il y a justement la mâche qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a ce goût. Il y a aussi une finesse en bouche qui est remarquable.
Il est envoyé malheureusement par des magrets de canard de mauvaise qualité. C'est toujours pareil.
Parce que là, il faut le dire, on vend des filets de canard, mais qui ne sont pas du tout issus des
canards. C'est du canard maigre, le filet. Oui.
Voilà, et ça n'a rien à voir.
Et puis le magret de canard, Sophie, le faire en carpaccio, enlever complètement la graisse, le laisser très finement, carpaccio, un trait d'huile d'olive, parmesan, sel et poivre.
C'est vrai que c'est surprenant.
Alors, je vais vous faire une confidence, moi j'adore le gras du magret de canard. Donc je le fais réduire au max sur le côté peau. Mais j'adore ce côté croustillant. C'est super bon.
Ben voilà. C'est de la gourmandise.
Vous êtes d'accord avec notre amour du gras qu'on clame depuis 11 heures. Vous avez grandi dans le sud-ouest, donc vous venez de nous le rappeler, Sophie. Dans votre magazine, vous consacrez un dossier au Pays Basque à la fin, parce qu'il y a un côté évasion. Et là, on est à Biarritz. Et vous nous faites faire des petites balades. Et il y en a une qui va jusqu'au port des pêcheurs, qui est une très belle adresse.
C'est magnifique, surtout pour manger des petits calamars, des petits soupiaux, les petites brochettes de calamars avec leur petite vinaigrette. S'appelle le chipister. C'est un espèce de mélange d'huile d'olive, un peu de vinaigre, de l'ail, des herbes.
Qu'on met sur le merlu à l'espagnol aussi.
Avec des chips d'ail. Moi, c'est comme ça que je fais l'ail. À chaque fois que je prépare des plats à l'ail, j'enlève le germe et je fais des petites chips d'ail que je fais cuire dans l'huile, et c'est plus digeste et ça apporte du croquant.
Ça amène le parfum, et c'est vrai que c'est un accompagnement idéal de tous les poissons de la mer.
On est dans le sud-ouest, on a envie de sortir la plancha. Mais en attendant, c'est l'heure de sortir le grill. On va vous passer sur le grill des bons vivants, chère Sophie. Alors, première question, quel est le goût de votre enfance?
Eh bien, c'est le goût du salmi de Palombe, c'est le goût des croquettes avec les restes de pot-au-feu de ma grand-mère, c'est le goût du poulet du dimanche, c'est le goût des bonnes frites maison
J'ai une passion pour les frites.
Ah, bah bienvenue
J'adore
au club.
J'adore
ah,
les frites. Alors pour moi, on reconnaît un bon restaurant à l'œuf mayo et à la qualité de la frite.
Mais est-ce qu'on parle bien de frites à la graisse de bœuf?
Oh là, ah non, bien d'accord. Pas du tout.
Vous avez réveillé le belge. Non,
chez moi, on les fait à la graisse d'oie, par exemple, ou à l'huile, toute simple, mais une huile neuve, quoi. Voilà.
Oui, pas de vieilles huiles. Pas de vidange. Votre plus beau repas?
Oh ben ça c'est des repas déjà avec un amoureux, hein. Forcément quand la chair se mène à l'autre chair
et à
l'amour, ben ça c'est formidable. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des amoureux généreux qui m'ont invité dans des très beaux restaurants étoilés, par exemple chez Yves. Et bon, c'est toujours des moments privilégiés.
Votre pire repas, Sophie Davant?
Mon pire repas, eh ben justement, si on me sert une quenelle molle avec en entrée une soupe et en dessert une compote, alors là, je me meurs.
Et au lit, au revoir. Votre plus grand raté en cuisine, c'est quoi?
Alors, mon plus grand raté, c'est que j'adore Christian Constant aussi, un copain de Dive, du Sud-Ouest aussi. Et alors, j'adorerais son... Moi, je ne suis pas très dessert, je suis plus salée que sucrée, donc je suis nulle en pâtisserie. Puis alors, suivre une recette, ça me rase totalement.
C'est de la précision, la pâtisserie.
Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, il faut que je crée, que je cuisine d'instinct, comme ça, que je reproduise des goûts. Et alors là, j'avais voulu me lancer dans son fameux millefeuille avec de la crème chantilly et il sert un caramel chaud dessus, ouais. C'est à tomber par terre. Sauf que j'avais vu ma grand-mère travailler la pâte feuilletée, je l'avais vu mettre du riz par-dessus pour éviter qu'elle ne gonfle. Donc moi, j'ai mis du riz sur ma pâte feuilletée, j'ai mis au four et j'ai juste oublié le papier de cuisson. Donc c'était de la pâte feuilletée au riz. Voilà, donc ça a fait la joie de mes enfants qui ne s'en sont jamais remis.
Votre bande originale pour cuisiner?
Bon, écoutez, j'essaie de mettre des gens que j'aime. Alors, parmi les gens que j'aime, ben, il y a Cabrel, vous me l'avez mis tout à l'heure, il y a Souchon, il y a Julien Clerc, il y a de la belle musique classique, il y a Eric Clapton avec son Unplugged, il y a Dire Straits, voilà.
Ce riff de guitare.
Swing.
Ah, bah magnifique, on y est là.
Ah, c'est
votre moment. Adresse secrète, Sophie Davant.
Alors, je viens de déménager. Figurez-vous que à ma nouvelle adresse s'est installée en face de chez moi une jeune femme. Hélas, elle a dû fermer très vite, puisque en raison de la crise sanitaire, mais qui était une élève d'un resto basque du 7e arrondissement qui a appris à cuisiner chez lui.
Chez l'ami Jean, chez Stéphane Jégot.
Ouais. Exactement. Eh oui. Donc, c'est une jeune femme qui est formidable et alors qui fait notamment une côte de bœuf avec des patates. Alors là. C'est tout ce que j'aime.
Ah bon, on y est. Ben nous aussi, on prend.
Et le nom du restaurant.
Ça s'appelle le Petit Georges.
Ah ben on prend. Merci pour cette adresse, Sophie. Et tiens, pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M.
À table.
Et ben voilà, c'est ce qu'on fait. Et on était ravis de vous recevoir à cette table.
Merci beaucoup.
Eh bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin.
Malheureusement.
Et heureusement, c'est pour le plaisir de se retrouver. On se retrouve la semaine prochaine. Justement, la tomate sera de la partie. Hein, ce légume-fruit de l'été, vous pensez bien qu'on va en faire le tour. On fera un atelier bocaux aussi, hein, c'est la saison. Vous avez beaucoup parlé des haricots verts depuis 11h, Yves Candebord. De beaux bocaux de haricots verts, par exemple.
Moi, je suis un inconditionnel de bocaux. Je crois que c'est l'avenir de nos foyers.
Merci Charlotte Nandran.
Merci Laurent, merci Yves.
Merci Charlotte. À demain dans le journal du dimanche.
À demain dans le JDD.
À bientôt à Saint-Germain-des-Prés.
Avec grand plaisir.
Yves Candebord. Et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres bons vivants. Il y aura Christophe Michalak, Richard Berry, Édouard Bergeon, José Dayan, qui seront des nôtres. C'est l'été, faites le marché et la cuisine, hein, n'oubliez pas, et le reste aussi. Et pour les recettes et le podcast, rendez-vous sur europe1.fr. dans un instant, c'est Europe Midi sur Europe 1. Bon week-end et puis faites gaffe, hein, restez prudents.